Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Xavier Maga, Jean-Noël Cimetière, Noël Goutte-Noire, Noé Moutier et Claude Janin.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui une émission pas comme les autres, puisque j'ai avec moi en studio quelques rebouteux venus du fond des âges auxquels je souhaite la bienvenue et à qui j'adresse une toute première question. Comment vous définiriez-vous ?
Nous sommes de modestes guérisseurs, possesseurs de savoirs ancestraux.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir comment on pouvait vous trouver ?
Eh bien, c'était tout simple. La plupart du temps, nous nous signalions aux passants en clouant des corbeaux ou des hiboux à nos portes. Pour ma part, je vivais à Saint-André-d'Apchon et je portais un crapaud séché attaché à mon chapeau et le soir venu, j'y ajoutais une chandelle allumée.
Alors effectivement, accoutré ainsi, il était difficile, je pense, de ne pas vous repérer.
Eh oui.
L'un d'entre vous peut-il me décrire un peu l'intérieur d'une maison de rebouteux ?
Ah, nos murs étaient souvent tapissés de vieux journaux. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, on pouvait observer des ingrédients de sorciers, comme des crapauds en cage, un bocal à grenouilles, des vipères séchées ou dans des bouteilles d'alcool, des clous de cercueil, des fourches de noisetiers, etc., etc.
Oui, et on utilisait les fourches de noisetiers pour la recherche de sources. Mais, et c'est très important, elles devaient être coupées le vendredi saint avant le lever du soleil en récitant cette prière. Je forge pour Moïse.
La canne du sorcier, quant à elle, a été charmée et sa dragonne de cuir devait être nouée de 7 nœuds.
Alors, était-ce une occupation suffisante pour gagner votre vie ?
Non, le patient donnait toujours quelques sous que nous étions censés reverser dans le tronc du saint invoqué pour le soigner. Et à côté, nous avions des occupations variées qui nous permettaient de gagner modestement nos vies.
Oui, nous étions vanniers pour tresser les paniers ou rempailler les chaises, musiciens pour faire danser aux veillées ou lors des fêtes patronales, chasseurs de vipères, bergers ou laboureurs.
On prétend que le don des rabouteux est attribué aux Russes venus en 1814.
Alors là, vous voulez parler de Créauvent, je pense, un Russe venu à Ambierle au moment de l'invasion et qui fut sans doute à l'origine de cette légende. Un autre rebouteux d'Ambierle prétendait pour sa part tenir certains remèdes d'un Égyptien. La vérité est que nous gardons pour nous l'origine de notre savoir, car le secret donné, on perd son pouvoir.
De plus, si nous le transmettons à une personne plus âgée, il se perd.
Alors, parlons à présent pratique. Comment faisiez-vous pour soigner vos patients ?
Les méthodes des rebouteux comprenaient trois plans d'action. Le toucher, la prière et l'action à distance. Pour l'action à distance, c'est la prière et la suite de notre pensée qui guérissait et on la pratiquait surtout quand nous ne pouvions nous rendre immédiatement au chevet des malades, en attendant de pouvoir les visiter.
Moi, par exemple, de chez moi, j'utilisais un fauteuil. Suivant que la blessure se situait au bras ou à la jambe, je conjurais le bras ou le pied de mon fauteuil. Par contre, je ne pouvais pas soigner le derrière.
Oui, j'imagine. Dans mes recherches sur vous, j'ai lu que plusieurs malades avouèrent s'être sentis soulagés immédiatement. Il y avait une croyance absolue sur ce point.
Moi, je plantais dans mon jardin, sur la terrasse du couvent d'Ambierle, une branche de noisetier pour chaque malade traité. Selon le degré de conservation de cette branche, je jugeais si mon malade guérissait ou si, au contraire, il avait besoin de soins plus énergiques.
Pour ma part, je suspendais un bouquet de fleurs au-dessus de la porte d'entrée de mes malades. et à mesure que les fleurs fanaient, le malade guérissait.
Et les procédés magiques puisés dans les livres ou transmis oralement abondaient dans les médications. Par exemple, les chiffres 3 et 7 revenaient souvent dans les prières, signes de croix, espèces de plantes, etc., etc., etc.
Les recettes exigeaient d'opérer avant le lever du soleil ou de cueillir telle plante le jour de la Saint-Jean.
J'ai lu que certaines pratiques plus complexes faisaient appel à des talismans.
Oui, j'ai soigné entre autres une dame atteinte de tuberculose au deuxième degré. Pour ce faire, je lui ai posé un disque d'argent sur la langue. À ce moment, je fus violemment repoussé en arrière, yeux gonflés, face congestionnée. Et à la deuxième imposition, rebelote. Et à la troisième, ce fut la malade qui s'agitait, sentant une brûlure, elle fut guérie. Je soignais de même le paludisme très fréquent dans la plaine. C'est un Égyptien qui m'avait enseigné le remède.
Pour que nos malades guérissent, il fallait y mettre une confiance absolue. Et il ne devait pas dire en nous quittant, cela donnera un résultat ou non, peut-être rien.
Vous, madame, vous êtes restée célèbre sous le nom de la sorcière de Bussière au XIXe siècle.
Oui, ma spécialité était la consultation d'après les urines. Selon la couleur ou l'apparence, je pouvais déceler telle ou telle maladie que je traitais avec des cataplasmes variés. Tanches vives, pigeons partagés en deux, poudre de foie de renard, la liste est longue.
Aujourd'hui, ces savoirs ancestraux se sont perdus, mais l'on trouve encore, ici ou là, dans nos campagnes, des rebouteux qui soignent les plaies de nos contemporains et qui, comme ceux qui sont passés avant eux, continuent à jouir d'un prestige particulier malgré leur humilité. Pour ma part, je suis allé voir plusieurs fois des rebouteux dans mon petit village de Fourneau. Il y en avait deux quand j'étais gamin et on allait les voir quand on se démettait un membre, quand on se faisait une entorse, quand on se brûlait, etc. Mon propre grand-père, qui vivait à Lay, coupait le feu. Et il nous soignait pour les brûlures et les coups de soleil en récitant des formules. Pour les verrues, il creusait un trou dans son jardin, nous mettait des graines de haricots dans nos mains, les couvrait avec les siennes, récitait une formule et nous demandait de déposer les graines dans le trou qu'il rebouchait. Les haricots poussaient, pourrissaient et les verrues disparaissaient avec. Je l'ai personnellement vécu. Il n'a jamais voulu nous dire comment il avait reçu le don et à la veille de sa mort, il l'a transmis à quelques personnes de la famille. Autre aventure, à Renaison, j'allais voir une dame qui vivait dans un sous-bois loin du village. Elle était d'un âge avancé et les villageois l'appelaient la sorcière. Elle soulageait mes douleurs dorsales en apposant ses mains et récitait quelques formules. Et quand elle rentrait dans une pièce, les montres s'arrêtaient. On disait qu'elle pouvait même endormir quelqu'un en le fixant du regard. Pour terminer cette émission, je dirais qu'ici même, en studio, un de mes collègues chroniqueurs a quelques dons de guérison. Mais ça, c'est une autre histoire.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Xavier Maga, Jean-Noël Cimetière, Noël Goutenoir, Noé Moutier et Claude Janin.